Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Je vous l'annonçais depuis quelques semaines, mais cette fois-ci nous y sommes. C'est le 300e numéro de cette émission. Nous atteignons donc ce cap symbolique et je voulais remercier à cette occasion tous nos auditeurs, ceux qui nous écoutent fidèlement chaque semaine et saluer aussi tous les musiciens, les directeurs d'orchestre, de festivals ou de saisons musicales qui participent régulièrement à Mélomanie et nous font confiance depuis 7 ans et demi. Et je voulais remercier chaleureusement celui qui est à mes côtés chaque mardi ou presque depuis que cette émission existe. Il est encore présent aujourd'hui et je me voyais mal animer ce 300e numéro sans lui. Je veux parler bien sûr de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Ensemble, nous allons vous annoncer le copieux agenda des événements musicaux à venir. Il y en a vraiment beaucoup la semaine prochaine. Mais avant cela, nous allons d'abord revenir sur les concerts récemment donnés à Toulouse. Retour arrière.
Mélomanie. L'agenda.
Bienvenue Serge et merci encore de votre fidélité à cette émission depuis ce jour de septembre 2017 où nous l'avions inaugurée. C'était dans ce même grand studio de Radio Présence et je peux affirmer sans exagérer que vous avez participé à au moins 95% des 300 numéros de Mélomanie. Est-ce que vous aviez conscience qu'on avait réalisé autant d'émissions en 7 ans et demi?
Tant que cela, il y a deux chiffres qui m'étonnent, à la fois le nombre d'émissions et la proportion de mes participations. Alors, c'est devenu naturel maintenant.
C'est le rendez-vous du mardi.
Voilà.
Il y en a qui prennent le thé, vous savez, un jour dans la semaine. Oui. Mais nous, on fait une émission la musique classique tous les mardis, effectivement.
Grand plaisir, évidemment.
Et aussi, rien ne disait que cette émission allait durer aussi longtemps.
Exactement. Mais rappelons quand même que Toulouse a reçu le label de l'UNESCO des musiques. Toulouse est une ville importante en France sur le plan de la diffusion des musiques.
Et donc, nous avons de la matière, évidemment, chaque semaine. Et beaucoup, beaucoup de concerts, de récitals, de festivals à vous annoncer tout au long de l'année. Il fallait marquer un peu le coup, on ne va pas s'attendrir plus longtemps. Place donc à l'actualité musicale récente. Mardi dernier, vous avez assisté à un concert d'un sextoire formé de musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Il y a eu un concert au Centre Diagora à la Bège, un autre à la Halograin, qui était proposé par l'association AIDA. Et vous teniez à nous en parler.
Oui, alors d'abord, je voudrais rappeler que l'association AIDA, c'est une association mécène qui soutient aussi bien l'Orchestre National du Capitole que l'Opéra National maintenant. Elle a intégré l'Opéra il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Au début, ça n'était que l'Orchestre National. Et là, elle soutient les deux en apportant des fonds, notamment pour permettre les tournées et les enregistrements. Donc c'est une association importante sur laquelle comptent les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, évidemment. Alors, j'ai assisté donc à ce concert du 23 janvier à la Halograin, et je voudrais indiquer que c'était un concert de musique de chambre donné par les musiciens des pupitres de cordes de l'orchestre. Il y avait Jaewon Kim, qui est la super soliste, et Audrey Loupy, les deux violons, puis Juliette Gilles et Anne-Sandrine Duchesne, les deux altos, et Pierre Gilles et Vincent Poucher, les deux violoncelles. Ils ont donné un concert avec deux grandes œuvres en sectior. Sectior à cordes, d'abord le numéro 1 en si bémol majeur de Johannes Brahms, qui a été achevé en septembre 1860, et puis le sextuor Souvenir de Florence, composé par Tchaïkovski en 1890, et qu'il a révisé d'ailleurs plus tard. Deux grandes œuvres pour sextuor, deux œuvres magnifiques, deux chefs-d'œuvre, on peut le dire. Et donc, avec tout d'abord ce sextuor à cordes numéro 1, on retrouve, alors pour les cinéphiles d'un certain âge, je rappellerai que les deux premiers mouvements du sextuor sont utilisés comme musique de film pour Les Amants, le film de Louis Malle, qui date tout de même de 1958. C'est assez ancien. Alors quand on réécoute notamment l'Andante, c'est vraiment d'une sensibilité, d'une profondeur, d'une beauté et d'une émotion extraordinaire. D'autant plus que les six musiciennes et musiciens qui l'ont joué D'une part, ils présentent une cohésion incroyable entre eux. Enfin, pas incroyable, parce qu'elle est normale, je dirais, puisqu'elle est issue du grand travail d'orchestre, hein, dans lequel, évidemment, ils s'insèrent, hein, eux-mêmes. Donc, magnifique, quatre mouvements de ce sextuor de Brahms. Et puis ensuite, Souvenir de Florence. Alors là, c'est après une visite de Tchaïkovski à Florence pour la première fois en 1878. C'était d'ailleurs, je le rappelle, grâce à la générosité de Madame von Meck, qui était celle qui l'aidait, qui le soutenait ardemment, avec laquelle il n'a eu d'ailleurs que des contacts épistolaires.
Oui, au grand désespoir de cette dame, d'ailleurs.
Au grand désespoir, oui, oui. Mais Tchaïkovski, rappelons-le, était homosexuel, et donc vraiment...
Oui, elle a mis du temps à le comprendre, apparemment.
Oui, il a mis du temps, puisqu'il a, il s'est marié.
Aussi. Et elle aussi.
Oui, 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 oui. Alors, c'est une œuvre vraiment magnifique, avec notamment dans les deux premiers mouvements, puisqu'il y a quatre mouvements, des thèmes vraiment à caractère italien. Et les deux derniers, ben, on voit pointer quand même une certaine... essence russe, hein, dans les deux derniers mouvements. Donc c'était un beau moment, là aussi, magnifiquement joué par les six musiciens qui parviennent parfaitement à équilibrer leur registre. Il n'y a pas un registre qui domine les autres. C'était vraiment un très beau moment qui a eu un grand, grand succès. Ils ont d'ailleurs bissé le dernier mouvement du Souvenir de Florence.
Eh bien, Souvenir de Florence, c'est justement l'extrait que je vais vous proposer, ce sextuor à cordes de Tchaïkovski. Très belle œuvre. Nous allons écouter le premier mouvement, Allegro con spirito. Le premier mouvement, Allegro con spirito, de Souvenir de Florence, le sextuor à cordes de Tchaïkovski, qui était donc au programme du concert donné par les six musiciens de l'Orchestre du Capitole, le mardi 21 janvier au Centre de Congrès Diagora de la Bège, puis à la Halle au Grain le 23 janvier. Nous allons reparler de l'Orchestre National du Capitole dans quelques minutes, mais auparavant, il faut qu'on revienne sur le beau concert que nous a proposé le cycle des grands interprètes, vendredi dernier à la Halle au Grain également. C'était le prestigieux Bach Collegium Japan qui était à l'affiche de cette soirée, dirigé par Masato Suzuki, avec un programme intégralement dédié à Mozart, programme au milieu duquel trônait en majesté le fameux Requiem, Serge.
Et évidemment, le Requiem a attiré une foule, la foule des grands soirs. Hein. C'est tout de même une œuvre très importante et formidable.
Et très connue.
Voilà. Alors, cet ensemble, qui joue sur instruments anciens, a été fondé en 1990 par Masaaki Suzuki. Et là, il est dirigé par son fils, Masato Suzuki, qui, en plus, a travaillé la fin de ce Requiem de Mozart, puisque on sait bien que Mozart n'a pas pu achever cette ultime partition. Et donc, il existe plusieurs fins possibles, l'une de Süssmayr, l'autre de Sigismund Neukomm, qu'on appelle d'ailleurs la version brésilienne, parce qu'elle a été jouée à Rio de Janeiro. Et donc, c'est la version de Masato Suzuki que nous avons entendue. Mais auparavant, il y avait une des grandes symphonies de Mozart, sa 40e, l'une des plus célèbres, si ce n'est la plus célèbre, qui était jouée avec une clarté, une transparence impressionnante par les musiciens, qui étaient une trentaine à peu près. Vraiment une très belle exécution de cette œuvre qui bat en brèche évidemment les versions romantisées du début du XXe siècle, où il y a ce qu'on appelait à l'époque une moquette de cordes qui enveloppait tout ça. Là, non, par exemple, l'équilibre entre les cordes et les vents s'est avéré parfait, avec en particulier, il faut décerner un remerciement particulier au pupitre de cor qui a fait des merveilles. Et c'était des cors naturels, et Dieu sait que le jeu des cors naturels est particulièrement redoutable. Très très beau, un très beau moment aussi. Et puis ensuite, nous avons accueilli donc d'une part le chœur de l'ensemble et quatre solistes chanteurs, donc quatre chanteurs solistes, pour ce Requiem. Alors, cette version Masato Suzuki n'est pas très très différente, en ce sens que ce sont des détails qui sont ajoutés par lui, en particulier l'intervention du trombone dans le tuba mirum n'est pas exactement celle que l'on entend d'habitude, qui était celle de Süssmayr à l'époque, l'un des élèves de Mozart. Pour ma part, ce que j'ai le plus admiré, c'est la qualité du chœur. Les voix du chœur sont...
Je suis complètement d'accord avec vous.
Ah,
c'était le plus impressionnant.
Impressionnant, l'équilibre entre les registres, les sopranos, les ténors, les basses.
Les voix d'hommes particulièrement étaient
magnifiques.
Les voix du dessous, les voix de basse, formidables.
Une merveille. Donc vraiment... un grand moment choral, on peut dire, hein, que ce Requiem. Et puis une lecture vivante qu'animait Masato Suzuki. Bon, aussi bien timbrée que nuancée, avec beaucoup de détails, un soin particulier aux détails, mais avec une ligne directrice vraiment très, très bien tenue. Alors, il y avait quatre solistes. Moi, j'ai beaucoup aimé la soprano Caroline Sampson, vraiment.
Soprano britannique.
Magnifique.
Avec un timbre
très,
superbe.
Très belle. Ouais. J'ai regretté un peu que les timbres de la mezzo-soprano Marianne Beat Kilan et du ténor Shimon Yoshida manquent un peu de projection.
Oui.
C'est-à-dire, j'étais un peu en deçà.
Alors moi, j'étais à tout près, hein, donc je les entendais bien. Oui. Mais effectivement, je me suis posé la question, est-ce qu'on les entend lorsqu'on est un peu éloigné?
Alors, il se trouve que j'étais au premier rang des deuxièmes galeries face.
Oui.
Et là, c'était un peu délicat. Et puis, je n'ai pas beaucoup aimé l'intervention du baryton basse, Dominique Verne, puisque c'est un timbre qui est insuffisamment sombre pour, j'allais dire, le rôle. Il ne s'agit pas d'un rôle, mais pour la partie. Donc, c'est un peu dommage.
Oui, je suis d'accord avec vous que c'était un peu en dessous quand même de l'ensemble de
l'ensemble.
Ce qu'on a pu entendre.
Non, mais l'ensemble était tellement haut placé.
Donc, on va sur un détail.
Ah oui, exactement. Donc, magnifique. Alors, en particulier, pour ma part, j'ai trouvé le Lacrimosa empreint d'une émotion incroyable. Et puis, à la suite de ce Requiem, qui s'enchaînait presque naturellement, le lumineux Ave Verum Corpus, le Köchel 618, qui est pratiquement contemporain du Requiem. Hein. Là, un grand repos, hein, une espèce de discours paisible qui complétait vraiment très harmonieusement l'exécution de ce magnifique Requiem. Et le public a aussi beaucoup apprécié. Vraiment, l'accueil a été enthousiaste.
Oui, longs applaudissements, effectivement, et rappel.
Absolument.
Alors, il n'y a pas eu de bis, évidemment, mais en fait, l'Ave Verum Corpus, que je trouvais un peu bizarrement placé dans le programme, parce que c'était court, très court.
Oui.
Ça dure 4 minutes,
quatre
mais
minutes.
En fait, c'était un peu le bis, d'une certaine
mais
manière.
Mais oui, exactement, c'était un bis prévu, programmé.
Eh bien, nous allons réécouter le Dies Irae du Requiem de Mozart dans une version enregistrée par le Collegium Bach Japan. C'était il y a près de 10 ans. Dies Irae, Le sublime Dies Irae du Requiem de Mozart dans la version que le Collegium by Japan avait enregistrée en 2015 sous la direction de Masaaki Suzuki, le fondateur de l'ensemble et donc le père de Masato Suzuki qui dirigeait la formation vendredi dernier à la Halle aux Grains. Prochain concert des grands interprètes, le lundi 10 février à 20h, avec le pianiste Evgeny Kissin, entouré de Guy Dunkremer, Maxime Rissanov et Gauthier Capuçon. Il y avait donc un autre concert de l'Orchestre National du Capitole la semaine dernière à la Halle aux Grains, un concert de la série Happy Hour. Il avait lieu samedi en fin d'après-midi. Celui-ci était dédié au basson et il était dirigé par une grande bassoniste française originaire de notre région, Sophie d'Artigalong. Serge était évidemment dans la salle pour y assister.
Ah oui, c'est une grande musicienne hein, et qui est non seulement bassoniste, mais qui est, c'est aussi important pour elle, chef. Et là, elle jouait le rôle de chef d'orchestre à la tête de l'Orchestre National du Capitole. Alors, ces séries de concerts Happy Hour sont vraiment des séries formidables qui attirent toutes les familles. Et on s'aperçoit que dans le public, il y a beaucoup d'enfants. Et je veux leur rendre hommage sur le silence qu'ils ont maintenu, les applaudissements frénétiques qu'ils ont déchaînés à la fin des œuvres. Donc, c'est vraiment une atmosphère qui fait chaud au cœur, en quelque sorte, hein, pour ces concerts. Alors, là, donc, l'orchestre était dirigé avec ferveur par Sophie d'Artigalong, et elle accompagnait d'abord trois des membres éminents du pupitre de basson de l'orchestre. D'une part, Estelle Richard et Guillaume Brun, qui jouent du basson, et puis Marion Lefort, qui, elle, joue du contrebasson. Et
instrument donc, très impressionnant, le contrebasson.
Impressionnant, par la taille comme par le son, hein. Oui. C'est vraiment incroyable. Alors nous avons d'abord entendu un concerto pour deux bassons avec de la musique de Vivaldi, mais rappelons que Vivaldi, qui a composé 39 concertos pour basson et orchestre, n'en avait pas composé pour deux bassons. Et donc nos deux interprètes ont choisi une transcription pour deux bassons du concerto pour deux violoncelles en sol mineur. Et ça marche très bien, la tessiture du basson et celle du violoncelle étant très proches. Ils ont joué ça avec beaucoup de tempérament et beaucoup de virtuosité. Ensuite, on a eu alors une grande découverte. Je ne savais même pas que ce type d'œuvre existait. Le concerto pour contrebasson d'un certain Daniel Baldwin, qui est né en 1978, compositeur contemporain. Et là, ils ont donné uniquement le premier mouvement, Misterioso, avec donc ce contrebasson joué par Marion Lefort. Impressionnant, vraiment. Les premières notes, c'est sépulcral. Hein. Les graves sont vraiment impressionnants. C'est un beau moment. Et puis, vraiment un mouvement, évidemment plein de mystères, hein, c'est le titre même du mouvement. C'est une sorte de monde nouveau, on a l'impression, qui se manifeste. Ensuite, il y a eu une œuvre de Carl Maria von Weber, L'Andante et Rondo hongrois, opus 35. Là aussi, c'est une transcription. C'était écrit initialement pour alto et orchestre. Et ça a été transcrit pour basson. Et donc, on a pu partager à la fois le calme méditatif de l'Andante et l'agitation un peu exotique, d'ailleurs, du rondo hongrois, puisque ça se voulait zigane un peu. Hein. C'était un très beau moment aussi, et très virtuose. Et enfin, nous avons eu une œuvre qui n'était pas spécifiquement dédiée au basson, puisqu'il s'agit de la suite du ballet Pulcinella d'Igor Stravinsky. Une œuvre magnifique, évidemment, de l'époque néoclassique du chef d'orchestre, bien éloigné du Sacre du Printemps, évidemment, dans sa conception. Et c'était là très, très intéressant, hein, puisque dans cette pièce, c'est incroyable le nombre de solos instrumentaux qui se succèdent. Une sorte de concerto pour orchestre, avec un grand solo de hautbois, puis de trompette, puis de flûte, puis de clarinette, de cor, de basson bien sûr, mais surtout de violon soliste. Et là, il faut remercier Jaewon Kim, qui une fois était la violoniste solo et qui a magnifiquement joué tous ces solos, et il y en avait plusieurs, donc qui sont sollicités tout au long des 8 épisodes de cette magnifique pièce, suite, disons, Pulcinella. Et puis alors, il y a eu une prolongation de cette soirée, mais une prolongation importante, avec deux interventions supplémentaires qui ont été bruyamment acclamées par le public. Sophie d'Artigalong, elle ne pouvait pas faire moins, a tout de même échangé sa baguette de chef pour son basson, en signalant qu'elle joue, elle, du basson allemand, puisqu'elle est premier basson à l'Orchestre Philharmonique de Vienne.
Oui, et Wiener, elle est au Wiener Philharmoniker. Hein.
Oui, oui, Wiener.
Je
ne
sais pas si vous vous rendez compte de prestige de cet orchestre.
C'est formidable.
C'est un des plus prestigieux du monde.
Ah oui, exactement.
Et donc le poste qu'elle a est un poste tout aussi prestigieux.
Prestigieux, complètement. Et donc là, elle a expliqué qu'elle jouait du basson allemand, appelé fagot, quelquefois. Et donc, elle a joué en trio avec une œuvre étonnante hein, qui s'appelle Requiem et qui est d'un compositeur tchèque du 19e siècle, David Popper, et qui est initialement conçue pour trois violoncelles et qui, là aussi, a été transcrite pour trois bassons. Et donc, les deux écoles de bassons, le basson français et le basson allemand, cohabitaient en quelque sorte pour cette exécution. Et enfin, on a vu arriver sur scène les deux autres membres du pupitre de basson, qui sont Mylène Poulard et Lionel Béassen. Donc nous avons assisté à une exécution. Alors ça, c'est rarissime. Hein, l'exécution d'une œuvre pour six bassons. Et évidemment, il s'agissait d'une transcription. Je n'imagine pas qu'un compositeur ait composé une œuvre pour six bassons. Et il s'agissait d'une transcription d'un extrait de la suite Peer-Gynt de Grieg dans l'antre du roi de la montagne. Et c'était magnifique, magnifique de finesse, d'intelligence, de musicalité. On peut dire un rare moment de triomphe bassoniste et qu'on n'entendra pas de sitôt, j'imagine.
C'est probable.
C'était rarissime.
Pour conclure cette première partie d'émission, voici un extrait du très bel Andante et rondo hongrois pour basson et orchestre. C'est une transcription, certes, de Karl Maria von Weber. Le début de l'Andante rondo hongrois de Karl Maria von Weber dans une transcription pour basson et orchestre. On termine donc avec cette œuvre, ce retour sur les concerts de la semaine passée. La petite virgule musicale habituelle maintenant, avant de retrouver Serge Chosy pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. Retour arrière.
L'agenda de ce 300e numéro de Mélomanie, toujours en compagnie de Serge Chosy. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, il est particulièrement copieux. Nous allons commencer avec le récital que donne le grand baryton Samuel Hasselhorn à l'Opéra National du Capitole ce jeudi 30 janvier à 12h30. C'est un midi du Capitole d'ailleurs, avec un programme de Lieder et d'air d'opéra pour lequel le chanteur allemand est accompagné au piano par Philippe Cassard, quelqu'un qu'on a souvent eu l'occasion d'entendre à Toulouse. Serge, en revanche, pour Hasselhorn, je crois que c'est la première à Toulouse.
Ah, il me semble bien que c'est la première fois qu'il se produit effectivement à Toulouse. C'est un grand plaisir, puisque ce qu'on écoute de lui par ailleurs est d'excellente qualité. Donc, on va peut-être pouvoir en juger.
Oui, c'est un des grands barytons actuels.
Ah oui, absolument. Et donc, son programme est très éclectique, puisqu'il y a deux cycles de Lieder, un cycle de Schumann et un cycle de Schubert, et entre les deux, trois airs d'opéra. C'est très bien organisé, en quelque sorte. Alors, le cycle de Schumann, il y a Tragödie, Belsazar, Stilltränen et Alte Laute. Et puis le Schubert, il y a le fameux Sehnsucht, et puis quatre autres, puisqu'il y a en fait cinq leaders de Schubert, vraiment de très grands leaders, hein, et dans lesquels les belles voix de baryton excellent. Et entre les deux cycles de leaders, il y a d'une part, de Richard Wagner, un extrait de Tannhäuser, la fameuse romance à l'étoile, de Wolfram, l'un des personnages principaux de l'opéra de Wagner. Ensuite, un extrait de Ariane Anaxos de Richard Strauss, avec l'air d'Arlequin, qui est aussi un air très, très vif et très amusant. Et puis, plus rare, un air de Die Tote Stadt, la ville morte, donc, d'Eric Wolfgang Korngold, qu'on a eu l'occasion de voir à l'Opéra National du Capitole aussi. Donc, l'air de Fritz, de la ville morte de Korngold. Ça fait un magnifique récital, bien équilibré entre mélodie, lieder, et opéra.
Oui, avec ce baryton allemand qui avait remporté le concours Reine Elisabeth en 2018, ce qui déjà le classait parmi les grands barytons d'avenir sur la scène internationale. Et pour vous faire découvrir la voix profonde et puissante de Samuel Hasselhorn, nous allons l'écouter dans une interprétation d'un des leaders de Schumann qu'il va chanter jeudi au Théâtre du Capitole, Stilltränen.
Steht's relativ sorg.
Stille Tränen, larmes silencieuses, un lied de Robert Schumann, superbement chanté par Samuel Hasselhorn, le grand baryton allemand, est donc en récital ce jeudi à 12h30 au Théâtre du Capitole. Accompagné par le pianiste Philippe Cassard, il va chanter un programme de Lieder et d'air d'opéra de Schumann, Wagner, Richard Strauss, Korngold et Schubert. Le lendemain, vendredi 31 janvier, concert de la saison Toulouse Guitare à 20h, salle du Sénéchal à Toulouse. Et c'est un concert avec une formule un peu particulière, Serge, puisqu'il est donné en deux parties par deux jeunes brillants guitaristes de la génération montante, la japonaise Erika Otani et le toulousain Virgil Barthes. Voilà une belle soirée révélation en perspective avec des musiciens qu'on a déjà entendus cependant à Toulouse Guitare.
Oui, tout au moins Virgil Barthes. Hein.
Et même Erika Otani.
Et même Erika Otani qui est déjà venue, oui. Alors Erika Otani, en fait, elle est née au Texas en 2003, mais elle a grandi à Tokyo, au Japon. On indique qu'elle a découvert sa passion pour la guitare classique à l'âge de 9 ans. Elle a obtenu de beaux diplômes et en particulier, elle a été acclamée pour une interprétation de la Chaconne de Bach dans un film. Et donc, elle a déjà publié un premier album qui s'appelle Erika d'ailleurs, et elle a été boursière de la fondation Yamaha Music en 2023. Elle poursuit ses études à Lille en tant qu'élève de Judica Elperoy et Carlo Marchione. Alors, on ne sait pas ce qu'elle jouera exactement, mais l'ensemble des œuvres jouées par les deux musiciens, les deux jeunes musiciens, sont des œuvres d'un certain Giulio Regondi du 19e siècle, hein, John Dolan, plus connu, Hans Werner Henze, alors là, c'est beaucoup plus récent, Maurizio Anna également, Dietrich Buxtehude, Domenico Scarlatti et Dusan Bogdanovic. Vraiment un programme extrêmement ouvert entre les deux jeunes artistes déjà, hein, puisqu'ils ont déjà donné des preuves.
Je crois qu'ils ont 20, Erika Otani doit avoir 21-22 ans et Virgil Barthes à peu près le même âge.
Oui, c'est ça, puisqu'il est né en 2003. Oui, oui, oui.
Voilà, donc ils ont 21 ans, 22 ans, tous les deux. A priori, Erika Otani devrait jouer plutôt dans son programme Regondi, Castelnuovo Tedesco, Henze et Jean-Sébastien Bach. Mais bon, tout ça c'est à vérifier. On va l'écouter, Erika Otani, cette jeune virtuose de la guitare dans une interprétation des Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega. Thank you. Erika Otani jouait les Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega et c'est donc elle qui ouvre le concert du vendredi 31 janvier à 20h à la salle du Sénéchal. Virgil Barthe va prendre la suite, donc jeune musicien toulousain oui. qu'on commence à bien connaître, donc. Passé par la classe de guitare du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse et qui poursuit ses études au CNSM de Paris. Lui aussi semble promis un brillant avenir puisqu'il a déjà gagné plusieurs concours internationaux, Serge.
Oui, oui, exactement. Alors, il est né lui aussi en 2003, donc il a exactement le même âge qu'Erika Otani. Et donc, il s'est formé en parallèle avec des masterclass dans des stages auprès de grands noms de la guitare classique comme Judica El Perroa, Thibaut Garcia évidemment, Antoine Morinière. Et donc c'est vraiment quelqu'un de solide et qui a participé à plusieurs des grands récitals de Toulouse Guitare puisqu'il jouait les premières parties comme ça se fait dans tous les récitals de guitare de Toulouse Guitare. Donc, il a effectivement obtenu des prix dans le concours international de Paris, puis un concours international du Béarn et également d'autres prix. C'est là aussi plus qu'une promesse, c'est vraiment un
guitariste. Oui, il a déjà fait ses preuves. Quand je dis c'est une promesse, il y a déjà des preuves qui ont été faites. Quand on gagne des concours internationaux, de toute façon, on a déjà fait ses preuves. Et lui devrait jouer un programme, donc Bogdanovich, Buxtehude, Scarlatti. Peut-être qu'il y aura d'autres compositeurs au passage, parce que vous savez, les programmes, parfois, oui, entre sûr. Ce qui est annoncé et ce qui est joué finalement, il peut y avoir quelques petites modifications. Et bien voici Virgil Barthe dans ses œuvres. Il joue ici la sonate K492 de Domenico Scarlatti. Virgil Barthe interprétait la sonate K492 de Domenico Scarlatti, l'une des pièces qu'il joue lors de son concert du 31 janvier à la salle du Sénéchal. Après celui d'Erika Otani, le concert de la première commence donc à 20h et je signale que ce même vendredi 31 janvier ainsi que le samedi 1er février, les deux fois à 20h, le comédien et chanteur Lambert Wilson est en concert à la Halle au Grain avec le pianiste et arrangeur Bruno Fontaine et accompagné par l'Orchestre National du Capitole, dirigé pour l'occasion par Alexandra Cravero. C'est un spectacle musical basé sur des airs et chansons tirés d'œuvres de Kurt Weill et arrangé par Bruno Fontaine. Deux soirées originales, sachant qu'on a déjà entendu Lambert Wilson avec l'Orchestre National du Capitole, mais c'est en tant que récitant.
Exactement, dans un concert Berlioz, effectivement.
Oui, il y a quelques années, c'est assez récent. Et puis on l'a aussi entendu, Lambert Wilson, déjà en tant que chanteur, au Festival de Toulouse, lors de la première édition en 2022. C'était dans le jardin Raymond VI, et il était déjà accompagné à l'époque au piano par Bruno Fontaine. Je pense d'ailleurs qu'il y avait du Kurt Weill dans ce concert. Donc voilà, si vous aimez Lambert Wilson aussi comme chanteur et si vous aimez Kurt Weill, eh bien n'hésitez pas à aller voir un de ces deux concerts le vendredi 31 janvier ou le samedi 1er février à 20h à la Halle aux Grains. Et vous allez retrouver les musiciens de l'Orchestre National du Capitole lundi 3 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, mais dans le cadre de la saison des Clés de Saint-Pierre pour un concert de quatuors à cordes. Serge, je vais vous laisser nous présenter les quatre musiciens qui se produisent ce soir-là, ainsi que le beau et très original programme qu'ils vont jouer. Ils l'ont intitulé « Quatuors en contraste ».
Exactement, et c'est bien de contraste dont il s'agira. Alors, les musiciens de ce quatuor sont Edwige Farinck et Jean-Baptiste Jourdain, violon, puis l'alto de Samuel Joly et au violoncelle Fanny Spangaro. Donc quatre des musiciens des pupitres de cordes de l'orchestre. Et donc, le programme musical qu'ils ont imaginé, c'est un programme qui s'étend du 19e au milieu du 20e siècle, donc, et qui va s'ouvrir sur la plus récente des pièces, qui s'appelle « Langsamer Satz », signée d'Anton Webern, l'un des trois grands compositeurs de la deuxième école de Vienne, fondée par Arnold Schoenberg, une pièce pour quatuor à cordes, « Langsamer Satz » signifiant « pièce lente ». Ensuite, nous entendrons le quatuor numéro 1 en la mineure de Béla Bartok, une grande œuvre qui en quelque sorte prolonge la masse des quatuors composés par Beethoven. C'est un peu l'autre grand compositeur de quatuor après Beethoven. Et c'est justement du Beethoven qui complétera ce concert avec le quatuor numéro 12, un quatuor évidemment très célèbre de Beethoven, qui fait partie de la dernière période qu'on appelle les cinq derniers quatuors de Beethoven. Mais elle a été longtemps, cette partition, incomprise du public. Elle n'a pas eu de succès au début, et puis aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus grandes œuvres du compositeur.
Alors effectivement, on va aller du plus récent au plus ancien dans l'histoire du quatuor à cordes, mais là, il y a près de pas un siècle et demi, mais 120-130 ans de quatuor à cordes dans ce programme. Donc vraiment intéressant, vraiment original si vous aimez ce type de formation. Et dans ce programme Quatuors en contraste que donnent les musiciens des Clés de Saint-Pierre lundi 3 février à Saint-Pierre-des-Cuisines, il y a notamment Langsamer Satz pour quatuor à cordes d'Anton Webern, dont je vous propose d'écouter le tout début. Thank you. Langsamer Satz pour quatuor à cordes d'Anton Webern, l'une des trois pièces au programme du concert Quatuors en contraste donné par les musiciens des Clés de Saint-Pierre le lundi 3 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et puis dernier concert que nous voulions vous annoncer et vous présenter, celui proposé par les Arts Renaissants le mardi 4 février également à 20h et également à Saint-Pierre-des-Cuisines. Pour le quatrième rendez-vous de leur saison, ils accueillent le sextoir vocal britannique Gesualdo Six. Si vous aimez les voix, et en particulier les voix d'hommes, c'est le concert à ne pas manquer cette année, parce que là, vous allez entendre un ensemble qui compte parmi les meilleurs du genre. Serge va nous présenter le programme que vont chanter les Gesualdo, avec peut-être avant un mot sur la composition de ce sextoir.
Ah oui, alors c'est un sextoir exceptionnel, d'une qualité incroyable, constitué de deux contre-ténors, Guy James et Alasdair Austin, deux ténors, Joseph Wicks et Josh Kuta, deux ténors, et puis un baryton, Michael Craddock, et une basse, Owen Park, qui est en même temps le directeur de l'ensemble de ces six chanteurs.
Et le fondateur.
Voilà, exactement. C'est vraiment un grand moment auquel il faut s'attendre là, avec au programme alors une multitude de compositeurs qui vont de Hildegard von Bingen, vous voyez, elle est née en 1098, vous voyez un peu, jusqu'à des compositions du directeur lui-même, Owen Park, de l'ensemble. Il y a du Thomas Tallis, du John Shepard, du Carlo Gesualdo, évidemment, puisqu'ils ont emprunté son nom pour leur propre ensemble, Luca Marenzio, Palestrina, et etc. Joseph Rheinberger, qui lui est du 19e siècle. Vraiment, l'histoire de la musique pour tous les amateurs de beaux chants masculins. C'est vraiment un beau moment auquel nous aurons la chance, le privilège d'assister.
Oui, ensemble de jeunes chanteurs, ils sont tous trentenaires jeunes trentenaires. Beaucoup sont issus du Tenebrae Choir de Nigel Short, qui lui-même est un ancien des King Singers. C'est un peu les nouveaux King Singers, le Gesualdo Six. Et Owen Park lui-même chante avec le Tenebrae Choir. Moi, j'ai eu l'occasion de les entendre à Rocamadour, les Gesualdo Six, l'an dernier et même l'année précédente. C'était vraiment à chaque fois extraordinaire. Vous allez avoir maintenant un aperçu de la justesse, de la précision et de la beauté des timbres des Gesualdo Six avec cette interprétation de Foss et Laron, une pièce composée par Owen Park, le fondateur du sextoir vocal britannique. Les voix incroyables des Gesualdo Six dans cette interprétation de Foss et Laron, pièce d'Owen Park, Le sextoire vocal britannique est donc en concert à Saint-Pierre-des-Cuisines mardi 4 février à 20h avec son programme Fading à l'invitation de la saison des Arts Renaissants. La billetterie est en ligne à l'adresse www.art-renaissant.fr. Concernant le concert Quatuors en contraste donné par les Clés de Saint-Pierre, lundi 3 février à 20h, également à Saint-Pierre-des-Cuisines, les réservations et l'achat des places sont à faire sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. D'autre part, pour assister au concert de Lambert Wilson, accompagné par l'Orchestre National du Capitole et le pianiste Bruno Fontaine, à la Halle aux Grains vendredi 31 janvier et samedi 1er février à 20h les deux fois, je vous invite à vous connecter au site www.onct.toulouse.fr afin d'acheter vos places. Pour le concert Révélation de Toulouse Guitare, où se produisent les jeunes guitaristes Erika Otani et Virgile Barthes, ce vendredi 31 janvier à 20h, salle du Sénéchal à Toulouse, la billetterie est en ligne à l'adresse www.toulouseguitare.fr. Et si vous souhaitez aller écouter le baryton Samuel Hasselhorn, accompagné par le pianiste Philippe Cassard, jeudi 30 janvier à 12h30 au Théâtre du Capitole, où il va chanter des Lieder et airs d'opéra de Schumann, Wagner, Strauss, Korngold et Schubert, vous pouvez acheter et réserver vos places sur le site www.opéra.toulouse.fr. Je remercie mon ami Serge Ozy qui a encore une fois co-animé cette émission avec moi, la 300e de Mélomanie, je le rappelle. Merci également à Christophe Aubry, à la régie technique. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Merci enfin à nos fidèles auditeurs et à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.